Adéquancy présente.
Premier de cordée, c'est de délivrer le sport à l'hôpital, de faire faire du sport aux enfants hospitalisés, qu'ils soient handicapés ou pour n'importe quelle pathologie. C'est une association qui bénéficie de jolis coups de projecteur, notamment grâce à nos parrains, qui sont et des sportifs extrêmement performants, mais au-delà de ça, vraiment des êtres humains qui ont envie d'aider une population d'enfants qui sont beaucoup moins chanceux que d'autres.
J'étais avec Kylian Mbappé à l'hôpital de Garches en début d'année. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de journaliste. Il est arrivé avec un ballon, sa banane, son sourire en bandoulière. On a organisé un 5-5 avec des aides-soignants, des docteurs, des infirmiers, avec tout le monde. Deux secondes et demie, cet hôpital était devenu le stade Maracana de Rio et on s'est éclaté pendant 2 heures.
Face à Face Décideurs, une émission de la chaîne Les Afters de la Transformation. Un podcast créé et imaginé par Adi Kouansi, spécialiste du management de transition. Une rencontre inspirante, impactante et immersive. Plongeons dans la vie d'un décideur avec Anthony Baron, CEO d'Adi Kouansi.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Face à Face Décideurs, une émission qui accueille des leaders entreprenants, acteurs de l'économie réelle et solidaire, portant au quotidien des mutations et des innovations dont les actions impactent notre société. Une émission aujourd'hui dans l'univers du monde associatif. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine du podcaston et pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. C'est une belle mobilisation et il était naturel pour nous que la chaîne des Afters de la Transformation y participe. J'ai donc l'honneur d'accueillir aujourd'hui deux belles personnalités représentant l'association Premier de Cordée, Nathalie Péchala, présidente de l'association, et Christian Jean-Pierre, président d'honneur. Bonjour Nathalie, bonjour Christian.
Bonjour.
Bonjour Anthony.
Bienvenue à tous les deux dans ce nouveau numéro de Face à Face Décideurs. Dans cette interview, nous allons revenir sur les éléments de vos riches parcours, le rôle de Premier de Cordée, les actions menées et aussi votre vision du futur et du monde de demain. Plongeons tout de suite dans la vie d'une décideuse et d'un décideur. Alors Nathalie, ravie de t'accueillir sur cette émission. Depuis le 12 janvier 2023, tu es la présidente de l'association Premier de Cordée, avec pour objectif d'y apporter une nouvelle dynamique. Dans ton parcours, tu es une grande championne de danse sur glace, championne d'Europe 2 fois en 2011 et 2012, médaillée des championnats du monde 2012 et 2014, 3 participations aux Jeux Olympiques, Turin 2006, Vancouver 2010 et Sochi en 2014, 19 médailles en Grands Prix internationaux et tu es 5 fois championne de France de danse sur glace. Quel palmarès! Et en parallèle, à la suite de cette carrière de grande sportive, tu es devenue consultante dans les médias tels que RMC Eurosport, ainsi que coach et chorégraphe de patinage auprès de la Fédération, les ligues et certains clubs sportifs entre 2014 et 2020. En 2020, tu deviens la présidente de la Fédération française des sports de glace et tu as également publié un livre qui s'appelle « Les bénéfices du doute » ou « Comment Monsieur Doute est devenu mon allié » en novembre 2020. Et à travers cette publication, donc, tu animes des conférences sur cette thématique des bénéfices du doute. Nathalie, première question pour toi, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir écrire ce livre et pourquoi le doute ?
Alors, pourquoi le thème du doute ? Déjà parce que j'avais envie de faire la passerelle entre le sport de haut niveau et le monde entrepreneurial ou les instances sportives. Et j'avais envie de mettre sous le projecteur le doute qui souffre d'une image négative. Il n'a pas un très bon attaché de presse, j'ai envie de vous dire, monsieur doute. Et donc j'avais envie, à partir d'anecdotes sur la glace ou en dehors, de montrer à quel point... quand on l'avait apprivoisé, donc déjà quand on avait pris conscience, apprivoisé, entraîné, il s'avère être vraiment un excellent moteur de succès. Et donc ça me permettait de retracer toute ma carrière sportive et même l'après-carrière en démontrant qu'il était absolument essentiel, nécessaire à quelque réussite que ce soit.
C'est une grande preuve d'humilité pour le coup. Est-ce que le doute peut être un allié dans le sport ?
Oui, mais pas n'importe quel moment. En fait, c'est le timing qui va décider de cette relation avec le doute. Moi, c'est vrai que quand j'étais petite, j'en avais pas du doute puisque j'étais dans le jeu, hein, j'étais dans le sport plaisir. Après, quand j'ai commencé à faire des compétitions internationales, quand j'ai commencé à m'entraîner beaucoup, c'est-à-dire plus de 3 heures par jour, bah forcément, on met de l'enjeu et on a des doutes à répétition, mais quel qu'il soit, hein, l'incertitude, de l'anxiété, du trac, quand il est combiné au stress. Et c'est un peu le sujet tabou. On a l'impression qu'on est faible quand on doute. Et au fur et à mesure, je me suis dit que si j'apprenais à m'en servir, c'est-à-dire que j'étais capable de le convoquer, comme j'étais capable aussi de le chasser juste avant l'échéance, de converser avec lui quand j'avais du temps et que l'enjeu était très faible, ça pouvait m'apporter quelque chose et ça pouvait être un levier de réussite.
Magnifique. On aura l'occasion de revenir justement sur cette thématique du doute. Et enfin, donc, tu es diplômé d'une licence en management du sport et de l'EM Lyon. Et tu es également décoré en tant que chevalier de l'Ordre National du Mérite.
Non, pas encore. J'ai reçu les papiers comme quoi je pouvais prétendre à cette médaille, mais je ne m'en suis pas encore occupée. Il faut que je le fasse d'ailleurs. Merci pour le remind.
Pour le rappel, eh ben, oui. C'est parfait. Bienvenue dans l'émission Face à Face Décideur, Nathalie. Et on sera ravis de suivre donc, cette décoration. Cher Christian, c'est un vrai plaisir de t'accueillir. C'est une grande voix du PAF que nous recevons aujourd'hui, une voix reconnaissable, un grand animateur de télévision et de radio que j'ai le privilège de présenter. Tu intègres le groupe TF1 en 88 comme journaliste et commentateur sportif pour une carrière de plus de 30 ans au sein du groupe. C'est un palmarès unique en France avec 8 Coupes du Monde de foot commentées, une Coupe du Monde féminine, 4 Championnats d'Europe avec notamment Arsène Wenger, Jean-Michel Larquet et Vicente Lizarazu à tes côtés, 10 ans à la tête de la présentation de Téléfoot. Et tu n'es pas seulement associé au monde du foot, puisque une autre de tes passions sportives, c'est le rugby. Et donc, tu as ton actif, 5 Coupes du Monde présentées sur TF1 et la dernière en France pour New World TV.
Oui.
Et New World TV, donc, c'est une chaîne africaine qui a diffusé les dernières Coupes du Monde de foot et de rugby dans 19 pays francophones avec ton implication comme responsable des contenus et commentateur depuis 2022.
Voilà, et ils viennent d'acheter le championnat d'Europe des Nations qui va se dérouler en Allemagne en juin prochain. Et ils ont acheté toute la Ligue des Champions sur les 3 prochaines années, la Ligue des Champions européenne pour tout le continent africain.
Et donc on aura encore l'occasion de t'écouter ou de te voir sur New World TV.
C'est des chouettes projets.
J'imagine. En plus, 19 pays, c'est énorme. Ouais. C'est combien de personnes, combien d'auditeurs ou téléspectateurs?
C'est plus de 200 millions de personnes qu'on peut toucher, ouais.
Incroyable.
Oui, c'est l'échelle d'un continent. Enfin, ouais. C'est plus grand que la France, quoi. Ouais,
c'est plus grand que la France, c'est ça. C'est ça. Alors, moi, j'ai une question rugby à vous poser à tous les deux, puisque on a eu la Coupe du Monde qui s'est déroulée en France il y a quelques mois. Alors, moi, je suis un grand amateur de rugby et vrai fan, notamment du 15 de France. Et je voulais revenir justement sur cette thématique du doute avec toi, Nathalie, qui a publié donc cet ouvrage sur les bénéfices du doute. À ton avis, est-ce que le doute a pu envahir à un moment donné l'équipe de France? Et quand on voit les performances aujourd'hui, est-ce que elle est encore dans cette période de doute?
Moi, je ne suis pas dans le noyau dur de cette équipe de France et dans leur secret d'entraînement au quotidien. C'est vrai que le mot doute est pas mal ressorti lors de cette Coupe du Monde. J'ai juste envie de vous dire qu'effectivement, si on commence à parler de doute alors qu'on est prêt à en découdre sur le terrain, ça devient compliqué. Le doute, il doit être présent dans toutes les autres phases de préparation, dans les sports artistiques, de la création, par exemple, dans n'importe quelle phase de transition, de changement, quand voilà, on va changer de composition d'équipe, d'entraîneur, d'intervenant, quand il y a des changements d'ordre général. Après coup, c'est-à-dire que ça se finalise par un échec ou par une réussite, on doit être capable de se confronter à ces doutes pour faire le petit retour sur l'expérience qui va nous permettre de progresser. Si on commence à évoquer le doute la veille du match ou 3 heures avant, effectivement, j'imagine que ça a dû être extrêmement compliqué puisque il n'y a plus de place pour le doute en fait quand on est dans les starting blocks.
Ouais.
Jamais de la vie. Tous les problèmes doivent être traités en amont et le doute doit être dissipé. Et ça prend du temps, en fait. C'est pas juste, tiens, je décide d'arrêter d'écouter tous ces doutes, toute cette petite voix-là qui susurre des choses généralement pas très agréables à mon oreille. Non, il y a un moment donné, il faut fermer la porte et ça doit se faire. Chacun le fait en fonction, encore une fois, de l'enjeu de la compétition et de la manière dont on a suggéré en tout cas, ces problématiques liées à la préparation mentale. Mais ça doit se faire... Bien avant.
Et justement, j'ai un possible parallèle avec le monde dans l'entreprise où on vit parfois des périodes de doute par rapport à des performances, que ce soit dans l'univers du sport ou même, je dirais, de façon générale. Donc la question est peut-être plus générique. Comment faire face au doute pour retrouver en fait de la performance?
En fait, si on ne prend pas l'habitude de convoquer, d'écouter ses doutes, de prendre conscience qu'on en a besoin, c'est là, on peut pas vivre sans doute en fait, c'est complètement absurde de se dire qu'on est juste plein de certitudes et c'est même dangereux. C'est des personnes qu'il faut suivre, enfin fuir absolument quand on vous dit qu'il n'y a pas le doute. Donc forcément, si on se fait croire ou si on fait croire à travers les médias que c'est une équipe ou un sportif qui n'a aucun doute. Vous pouvez être sûr qu'au pire des moments, il viendra frapper à la porte. Il ne va pas vous laisser tranquille. C'est pour ça que c'est un peu comme un muscle. Il faut l'entraîner et il faut lui donner de temps en temps le droit aussi de s'exprimer. Absolument. La clé, c'est vraiment, pour moi, l'idée qu'on forme une équipe avec donc, ce que j'appelle Monsieur Doute. Mais il faut rester chef de son projet. Et donc, c'est comme dans le milieu de l'entreprise. On est décideur, on a plein d'experts autour de nous qui vont nous aider à atteindre l'objectif tant convoité. Et Monsieur Doute fait partie de cette équipe, forcément. Mais encore une fois, il faut prendre le temps de l'écouter, il faut assumer le fait qu'on ait des doutes. Pour moi, ça ne rime pas du tout avec faiblesse. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui est sûr de la décision qu'il prendra à un moment donné.
Merci beaucoup Nathalie pour cette réponse. Alors toujours pour poursuivre dans l'univers du rugby très rapidement, ouais, et cette question va vous concerner tous les deux. J'ai assisté à 4 matchs de l'Afrique du Sud. Voilà, cette équipe, elle me fascine. J'ai rencontré il y a quelques années Abdelati Benazi qui m'avait dit globalement ce qui s'était passé lors de la demi-finale en 95. Et de là, je m'étais dit, mais comment cette équipe a réussi vraiment à se transformer? Et en fait, en participant à ces 4 matchs de l'Afrique du Sud au Stade de France, donc contre l'Irlande, quart de finale, demi-finale, finale, je suis venu très tôt dans le stade volontairement pour observer ce qui se passait avant. Et là, je vois en fait de l'influence de la part de l'équipe, et notamment d'un membre du staff qui est Rassi Erasmus, donc qui a été le précédent sélectionneur, qui est toujours un rôle important dans l'équipe, et qui a un rôle en fait d'influence à l'échauffement en bord de terrain face aux équipes adverses, à observer avec attention les moindres derniers détails de l'échauffement de l'équipe adverse, etc., voire même aussi avoir des discussions avec les arbitres. Et en fait, je me suis dit, mais la Coupe du Monde leur est acquise, enfin c'est une question d'ailleurs, parce que est-ce que l'aura et l'influence d'une équipe telle que les Springboks peut avoir un impact en fait sur leur environnement?
Alors moi, si tu veux être assez direct, Anthony, moi j'ai déjà un avis très tranché là-dessus, parce que j'ai suivi comme toi cette Coupe du Monde de très près, mais j'ai un devoir de réserve, donc j'ai aucune envie de te donner mon analyse, parce que c'est pas l'objet du podcast. Ce que je peux faire en revanche, c'est t'expliquer pourquoi l'équipe de France va moins bien aujourd'hui. Il y a des faits. Antoine Dupont est parti jouer à 7. Donc Antoine Dupont, c'est le meilleur joueur du monde. Donc évidemment, on perd des repères. Mais surtout, Fabien Galthié a perdu tout son staff, puisque tout de la préparation physique, Thibaut Giroud, Farid Ghezal, etc., ils sont tous partis dans des clubs pour de bonnes raisons, parce que c'est un métier et qu'il faut gagner sa vie. Donc l'équipe de France s'est retrouvée, après la Coupe du Monde, c'est pour ça qu'il ne faut pas être effrayé, totalement dépouillé. Elle a à la fois perdu son staff et son meilleur joueur. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on soit dans le dur. Après, si on analyse la Coupe du Monde, c'est pas l'objet du podcast, donc je veux pas en parler.
Ok. Nathalie, est-ce que tu as un commentaire?
Je suis obligée de m'y coller. Tu me dis, ça tombe bien, je suis spécialiste de rugby. Donc.
Non, mais c'est plutôt sur l'influence et l'aura que peuvent avoir des favoris.
Passé artistique, donc à jugement humain, il y avait en tout cas fortement, il y en a toujours un petit peu d'influence, ça a un rôle en tout cas dans la préparation. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'influence, c'est comme le dopage, c'est-à-dire que ça ne renverse pas tout le château de cartes. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas juste avec ça, ça ne suffit pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'un champion, il borde tout. Il a forcément une super condition physique, il a forcément tous les meilleurs conseils techniques, il a tous les experts, que ce soit sur l'encadrement médical, etc. Et c'est pas juste l'influence ou juste un petit shoot avant d'aller jouer qui va renverser la tendance. Je fais pas du tout, j'espère, la promotion du dopage. Ce que je veux dire, c'est que c'est un tel niveau d'exigence, il faut tellement cocher toutes les cases que l'influence peut-être a joué un rôle, mais c'est pas juste la présence de ce monsieur qui a fait que. Je pense que c'est un tout, que c'est un état d'esprit, et que aucun point n'est à négliger quand on a l'or dans le viseur.
Donc ça fait partie des points de détail, finalement.
Ouais.
Merci beaucoup pour vos réponses à tous les deux. Je poursuis la présentation de Christian et j'y reviens. Donc depuis 20 ans, en parallèle de tes rôles de commentateur et d'animateur sportif, tu réalises un reportage sur les coulisses du concert des Enfoirés. Mmh. En 2021, tu as également réalisé un documentaire sur Arsène Wenger, Invincible et l'épopée d'Arsenal en 2003. Et tu es aussi l'auteur de publications telles que 48 2 tiers, donc je crois que c'est ta pointure de chaussures, hein, si je ne me trompe pas. Donc c'était ton premier livre, hein, qui raconte notamment l'histoire et les rencontres auprès de personnalités telles que Kadam Merad, Lionel Messi, Bertrand Piccard. Tu as également coécrit donc Sorry Good Game, Dico bilingue du rugby, et 2026, l'année où le football deviendra américain.
On en fait des choses dans une vie.
Exactement.
Je réalise.
Alors, ce n'est pas fini. Puisque dans tes autres activités, tu as également créé un groupe de rock qui s'appelle Rockaway, donc groupe de musique.
Dont Nathalie est la chanteuse.
Toi, tu en es le batteur.
C'est une vanne, hein, je préfère préciser. Ne fuyez pas.
Voilà. Et donc, en fait, chaque année, c'est un concert caritatif qui est organisé à l'Olympia.
Ouais.
Et notamment en faveur de l'association Premier de Cordée, et ce, depuis 2017.
Voilà.
C'est ça ?
Ouais, voilà. Et pourquoi Premier de Cordée ? Parce que quand on a des gens comme Nathalie qui se battent au quotidien pour l'assaut, on a envie de les aider, tout simplement.
C'est une cause magnifique. Alors, je n'ai pas fini, cher Christian, puisque tu as aussi eu plusieurs distinctions au travers de ta carrière. Plusieurs
c'est
récompenses.
C'est pas très important. C'est pas une remise de Légion d'honneur, on peut passer.
Ah, mais quand même. Trois micros d'or, le Mac d'or 2011 dessiné par l'équipe et le prix du meilleur commentateur en 2006.
C'est vrai. Oui.
Voilà, et je terminerai, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non.
Voilà, je voulais donc terminer en mettant en avant ta générosité, parce qu'en fait, je t'ai connu par l'intermédiaire de ma femme, Géraldine, qui est fondatrice d'une école Montessori qui s'appelle Les Petits Écoliers. Et je sais que tu attaches une attention particulière à cette pédagogie. Voilà, et en fait, quand on t'a proposé cette interview, tu as accepté sans hésitation, avec l'envie de réaliser une belle émission. J'ai aussi découvert ton sens du détail, celui de journaliste, naturellement. Donc autant dire que là, c'est moi qui apprends énormément. Voilà, donc c'est une vraie chance pour moi. Et un grand merci à toi et nous offrir donc à nos 60 000 décideurs qui peuvent nous écouter donc l'opportunité de te rencontrer et de découvrir également Nathalie.
Mais puisqu'il y a autant de décideurs, on n'a qu'une envie avec Nathalie. Je saute sur l'occasion, c'est que vous rejoignez notre asso. C'est pour ça qu'on est là. On va essayer de vous donner l'envie de nous retrouver.
Eh bien, écoutez, c'était un grand plaisir. Je pense que ça a été un joli échange pour le coup. Et puis, je pense que si Adéquancy et les auditeurs qui nous écoutent sont convaincus, on partagera naturellement donc toutes les coordonnées de l'association Premier de Cordée. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, l'association, elle est créée en 99, si je ne me trompe pas. Et elle propose donc en fait régulièrement et gratuitement des initiations sportives pour les enfants malades et ou en situation de handicap. Et l'association sensibilise également donc, au handicap, les scolaires et les entreprises, notamment en utilisant le handisport. Nathalie, première question, quelle est l'origine de Premier de Cordée ? Et peut-être en parler un petit peu plus.
Ouais. En fait, la mission d'intérêt général de Premier de Cordée, c'est de délivrer le sport à l'hôpital, de faire du sport aux enfants hospitalisés, qu'ils soient handicapés ou pour n'importe quelle pathologie. L'association, elle a été créée par un ancien collectif de sportifs de niveau, principalement des rugbymen d'ailleurs. En fait, ils se sont rendus compte que lorsqu'ils étaient en carrière et blessés, ils arrivaient toujours à faire de l'activité physique, même si une partie de leur corps était immobilisée. Ils se sont rendus compte que ça participait à une guérison plus rapide, garder aussi un bien-être mental et qu'après, ils étaient plus facilement efficaces à nouveau sur le terrain. Et ils se sont dit, mais finalement, la population qui devrait le plus bénéficier de cela, ce sont des enfants des hôpitaux. Et à partir de là, ils ont donc créé Premier de Cordée. Et nous, notre rôle, 25 ans après, c'est de faire perdurer cette impulsion, la faire grandir. Donc, c'est une association qui bénéficie de jolis coups de projecteur, notamment grâce à nos parrains, qui sont et des sportifs extrêmement performants, mais au-delà de ça, vraiment des êtres humains qui ont envie d'aider une population d'enfants qui sont beaucoup moins chanceux que d'autres. Malgré tout, on reste une petite association.
Vous êtes combien de personnes
On a 9 salariés.
9 salariés.
Et le but du jeu pour nous, c'est lorsqu'on pousse la porte d'un hôpital et qu'on commence à proposer des initiations sportives, donc vous l'avez dit, mais j'aime bien le rappeler, évidemment tout est gratuit et pour les bénéficiaires et pour les structures hospitalières qui nous accueillent, c'est de jamais avoir à la refermer cette porte. Parce que même quand les soignants ou les éducateurs, ce qui est de moins en moins le cas très honnêtement, peut être un petit peu sceptique en disant mais c'est pas forcément la priorité de l'hôpital aujourd'hui, ils se rendent compte à quel point ça fait du bien aux enfants, physiquement, mentalement, ça crée du lien, du partage, de la convivialité. Parfois, on arrive à réunir différents services du même hôpital. On va prendre l'oncologie, l'orthopédie, et on va réunir les enfants dans la cour, dans l'escalier, dans le hall, et ils vont découvrir du badminton, du ping-pong, de la gym, de l'escrime, peu importe. Ça permet de les occuper dans la journée, de rompre l'isolement. Deux, nous, en leur amenant le terrain sportif et en leur montrant les bénéfices qu'ils peuvent en tirer, l'idée, c'est que lorsque la guérison elle est possible, s'ils sont autorisés à sortir de l'hôpital, ils aient envie de continuer à pratiquer en s'inscrivant dans un club, bien sûr. Et donc, on est sur aussi un volet préventif. On est, vous l'avez compris, entre le sport et la santé, mais on lutte contre la sédentarité. Et il y a un côté, j'ai presque envie de dire, éducatif par rapport à tous ces jeunes.
Et pédagogique aussi, j'imagine.
Évidemment. Pour le coup. Et ludique aussi. Et ludique. On peut dérouler. Ouais, ça a plein de vertus. Ouais.
Et c'est difficile, en fait, aujourd'hui, d'ouvrir les portes d'un hôpital pour proposer les services de l'association.
Bah, ça n'a jamais été facile. Je trouve que là, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, plus la grande cause nationale qui est de promouvoir l'activité physique pour tous, on commence à avoir des balbutiements d'un changement de conscience. On se rend compte à quel point ça coûte cher à l'État, tout ce qui est lié au remboursement de la santé. Alors que si on agit sur de la prévention, tout le monde sera déjà en meilleure forme, aura une meilleure vie, mais en plus, ça coûtera moins cher à nous tous, qui contribuons bien évidemment à toutes ces dépenses. Donc oui, ça a plein de vertus, mais ce qui est chouette, et c'est bien d'avoir Christian aussi qui peut en témoigner, c'est même sans partir dans des grands j'ai presque envie de vous dire des grands principes, vous allez sur le terrain, vous voyez ces gamins qui arrivent la plupart avec des fauteuils roulants, des perfusions, qui sont appareillés, qui viennent d'accueillir leur première prothèse, et on se dit mais comment on va pouvoir réagir face à eux, comment on va arriver à faire quelque chose, et en fait en 10 minutes, tous les doutes, pour le coup, sont balayés et on partage un moment qui est dingue parce que eux, ça leur permet de s'évader. Nous, on relativise aussi. On se rend compte qu'on est tous différents, on a des parcours différents, mais on a tous à s'apporter les uns les autres et de voir leur sourire et de voir les soignants, les éducateurs, justement tout le personnel médical après qui veulent absolument qu'on revienne et qu'on puisse pérenniser ce qu'on est en train d'impulser. C'est là où on se dit qu'on est dans le vrai et on est dans le concret.
En fait, l'intervention ou la manifestation que vous organisez dans l'hôpital, c'est une fois par an. Enfin, comment ça se passe? Où il y a de la régularité en fait avec des éducateurs peut-être qui viennent.
En fait, on a deux grandes façons de procéder. La première, c'est les initiations collectives. Donc là, c'est minimum une fois par mois. Top du top, c'est une fois par semaine. On s'appuie sur tout le mouvement sportif, c'est-à-dire que des clubs nous mettent à disposition des éducateurs qui donnent de leur temps pour venir dans l'hôpital. Nous, on coordonne tout ça, on apporte nos bénévoles, on forme tout ce monde justement à rencontrer ces enfants malades. Et l'idée, évidemment, c'est de multiplier ces séances et de leur faire découvrir plein de disciplines sportives. Et l'autre volet, et ça c'est né grâce au Covid, parce que le Covid a aussi finalement fait des belles choses, on a créé un dispositif qui s'appelle Opisport, qui est une tour. Sur les 4 phases, vous pouvez faire différentes activités physiques adaptées. Et là, on a des enseignants en activité physique adaptée qui vont, donc avec cette tour, de chambre en chambre. Pourquoi je ramène ça au Covid? C'est parce que on s'est rendu compte où on avait l'interdiction de faire sortir de leur chambre certains enfants par rapport à leur pathologie, par rapport au risque. Et puis, on a, au-delà du Covid, beaucoup d'enfants qui sont alités qui ne peuvent pas sortir de leur lit. Et donc, ils étaient privés de cette pratique sportive. Donc, nous, on leur a dit, banco, ils ne peuvent pas venir à nous. Nous, on est allés déjà dans l'hôpital, on va faire mieux que ça, on va aller dans leur chambre. Et donc, on passe de chambre en chambre. Et quand on met ce genre de dispositif en place, ça, c'est toutes les semaines. C'est un suivi hebdomadaire.
Et donc, ça, c'est le module Opisport,
ouais.
C'est ça. Et vous avez combien de modules aujourd'hui qui fonctionnent?
Aujourd'hui, on en a 7.
D'accord.
On a un plan de développement très précis.
Ouais.
Pour ça, il nous faut des ressources humaines et financières, parce qu'on a du matériel. Ouais. Mais l'idée, c'est d'équiper toutes les villes moyennes en France, voire les grandes villes. Et on a aussi créé un autre dispositif qui s'appelle Mobisport. Et là, c'est un vélo cargo qui va donc Lyon, Bordeaux, Marseille, Paris, et plus encore, En fait, dès qu'il y a différentes structures hospitalières, l'enseignant APA peut proposer du sport à beaucoup plus d'enfants puisqu'il va pouvoir passer de structure en structure assez rapidement.
D'accord, ok. Ouais. Très innovant pour le coup. Et typiquement, on parlait de financement ou de finances. Un module hobby-sport, c'est quoi le coût de construction ou,
c'est 10 000 euros pour le matériel, enfin toute la D'accord. tour avec le matériel inclus. Le vélo cargo, c'est la même chose.
Okay.
Et nous, ce qui nous coûte énormément, c'est, vous l'avez compris, l'enseignant à part.
Exactement.
C'est 30 000 euros en gros par an sur un temps plein.
D'accord, c'est pour un éducateur qui va utiliser cette tour et animer voilà. Donc, dans les hôpitaux. Ok. Et là, l'objectif pour vous, c'est de recruter ou en tout cas de développer. Enfin, oui, de recruter combien ouais, d'éducateurs à terme.
On a pour objectif 2026 de découper la France en 5 grandes parties. Je ne parle pas de région parce que on y va sagement. On n'a pas envie de construire un espèce de château de cartes et tout s'écroule le jour où on perd un gros partenaire financier. On n'a pas énormément de subventions publiques, mais j'espère qu'on arrivera à en décrocher un petit peu plus. Et oui, on fait en fonction de nos moyens. C'est-à-dire que plus vous, qui nous écoutez, vous avez envie de nous aider, et plus on sera à même de dispenser des sessions sportives au sein des hôpitaux.
Parce qu'aujourd'hui, la recherche de financement, vous l'obtenez comment, par quel moyen ?
Alors, on a des gros partenaires qui nous suivent. Je vous disais tout à l'heure, on est une petite association pour être complètement transparente, c'est la première année 2024 où on a un budget prévisionnel qui passe la barre des 1 million d'euros. On a un budget de 1 million 100.
Super.
L'an passé, on était à 850 et l'année d'avant, 650. Donc voilà, on se développe. On a à peu près 10-15% qui proviennent de subventions publiques.
Okay.
Et le reste, c'est des dons, personnes morales ou physiques. Donc on est très, très attachés voilà, à ce soutien, très, très reconnaissants aussi. Par tous ceux qui nous aident, dont le groupe Rockaway. J'ai pas envie de citer un sponsor parce que je me dis, ou un mécène, parce que je me dis, mince, après, il va falloir que je déroule la liste et si j'en oublie un, je vais me faire allumer, mais ils se reconnaîtront et de toute façon, vous pourrez les découvrir, enfin, vous pouvez d'ores et déjà les découvrir sur le site internet premierdecordée.org.
Exactement, on peut tout à fait y aller, on va retrouver toutes les informations donc, sur les partenaires et également les actions menées par Premier de Cordée. Alors, une petite parenthèse aussi, parce que qui a aussi son importance, cette association fonctionne beaucoup avec des parrains, des marraines. Avant de citer quelques noms, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi vous, votre parcours. En tant que parrain-marraine à l'origine dans l'association.
Quand on est dans le monde du sport et qu'on est un petit peu attaché à l'enfance et qu'on est père de famille, on se dit quand on voit des gamins dans un hôpital que c'est pas leur place, on est forcément touché par la cause. Donc moi ça me semblait naturel de m'occuper d'enfants. Et comme j'ai toujours baigné dans le sport, même si je ne suis pas un sportif de haut niveau comme Nathalie, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire pour eux et comment on peut faire pour les aider. Et ça a un sens dès qu'on va dans un hôpital. Tu parlais des opérations au Pisport. Moi, j'en ai vécu une récemment que je raconte parce que je pense qu'il faut raconter ce genre d'histoire. J'étais avec Kylian Mbappé à l'hôpital de Garches en début d'année. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de journaliste. Il est arrivé avec un ballon, sa banane, son sourire en bandoulière. On a sorti tous les gamins qui avaient toutes les pathologies possibles et inimaginables sur un terrain de foot qui était sur la terrasse de l'hôpital. On a organisé un 5-5 avec des aides-soignants, des docteurs, des infirmiers, avec tout le monde. Eh ben, en 2 secondes et demie, cet hôpital était devenu le stade Maracana de Rio et on s'est éclaté pendant 2 heures.
C'est énorme.
Et le simple fait de voir Kylian avec ses enfants-là, qui se foutaient de savoir s'il y avait des journalistes, qui étaient juste là pour jouer au foot avec eux, bah, c'est magique. C'est magique pour tout le monde. C'est magique pour les enfants. C'est magique pour le personnel hospitalier. Et ça a un vrai sens. Donc, ça, ce sont les opérations coup de cœur qu'on fait dans les hôpitaux. Et puis, on a quand même un grand rassemblement qui a lieu chaque année au Stade de France et dans les différentes villes de France qui est la journée évasion où on sort 5000 gamins des hostos parisiens pour leur faire faire du sport. Et là, pareil, je rejoins Nathalie, on prend des claques en croisant les parents, en croisant les enfants, en croisant tous les gens qui sont concernés par ce style d'événement. Alors après, pourquoi cet assaut ? Moi, je trouve que j'ai toujours baigné, j'ai presque envie de vous dire, par atavisme familial après des années de scoutisme dans le monde associatif. En 30 ans de carrière, j'ai croisé des assos très bien, comme les Restos du Cœur. J'en ai croisé des beaucoup plus pourris, entre guillemets, qui méritent pas qu'on s'attarde sur eux. Et quand je suis tombé sur Premier de Cordée et que j'ai vu qu'il y avait que des gens bien, même si l'asso était minuscule,
je me suis dit, bah, il faut aller chercher des gens compétents. Et on a une présidente qui est extrêmement compétente et qui nous met en valeur et qui nous met en lumière.
Magnifique. Quel hommage. Et toi, Nathalie, ton parcours au sein de Premier de Cordée, c'était quoi?
Alors moi, je suis devenue marraine en 2013. Je vais la faire courte, mais je rejoins complètement Christian sur tout ce qu'il vient de dire, bien évidemment. L'enfance, le sport, la santé. Je vois pas comment on peut, rester insensible, et deux, ne pas croire en la mission et ne pas donner tout ce qu'on peut pour pouvoir la développer. En plus de ça, et vraiment c'est important, il l'a fait Christian, mais je vais le redire encore, c'est une asso qui est saine. C'est-à-dire tout est clair, tout est transparent, il y a beaucoup de bienveillance. Tout le monde, que ce soit les élus, les salariés, les éducateurs sportifs qui nous accompagnent, tout le monde est en ordre de marche pour atteindre notre objectif qui est illimité, puisque là, on se rend compte qu'on touche simplement 15 à 20% de l'ensemble des hôpitaux en France. Donc, on a encore beaucoup de boulot. Et voilà, pour toutes ces raisons et des plus personnels aussi. J'ai une maman qui était médecin, j'ai une petite qui s'est fait hospitaliser. C'était bien costaud. Et pendant cette hospitalisation, je retiens deux moments joyeux. La première, quand on vous dit que votre petite va aller bien. Alors ça, c'est évidemment, c'est au-dessus de tout et que voilà, le plus dur est passé. Et la deuxième, c'est quand il y a le bénévole. Alors, c'est pas un bénévole de Premier de Cordée. C'est une autre association qui intervient à l'hôpital, pas pour faire du sport, mais pour être en soutien des parents. Et donc, il vous dit, moi, je vais garder votre petite 10 minutes, ça vous permettra d'aller prendre l'air. Et c'est là où on se rend compte que, heureusement, qu'il y a ce mouvement associatif qui vient en aide aux personnes qui sont, même si c'est sur un temps, vulnérables. Et les enfants des hôpitaux, généralement, c'est pas simplement sur un petit laps de temps. Donc oui, c'est extrêmement important de les accompagner comme on peut.
Parce qu'en chiffres, je crois, c'est à peu près 11 500 enfants qui ont bénéficié des actions de Premier de Cordée, 60 services pédiatriques accompagnés, 150 IME, IME étant des instituts médicaux et éducatifs. Donc ça partout en France, 630 initiatives sportives aussi qui ont été mises en place. Mmh. Donc bravo, parce qu'on imagine l'énergie qu'il faut déployer pour arriver à...
Quand on regarde ce qu'il y a derrière, on se dit... Ouais, bravo. Mais quand on regarde encore la route qui nous reste à parcourir, on a juste envie de se relever les manches et vraiment de ramoter un maximum de personnes en soutien.
C'est là où je veux en venir, parce que j'ai fait mes petites recherches. On a une belle équipe d'enquêteurs sur la chaîne. Donc effectivement, on parle d'un budget d'environ 1 million d'euros. Et en fait, on a 1,2 million de mineurs hospitalisés chaque année. Et ça, ce sont les chiffres, en fait, et hors naissance, mais de la Haute Autorité de Santé. Donc si on fait le calcul bêtement, ça fait moins d'un euro par enfant pour qu'il puisse avoir accès à une activité sportive quand il est hospitalisé.
Oui, alors je ne sais pas si vos calculs... Enfin, je veux dire, vos calculs sont bons, mais je pense qu'il faut le voir, de la hauteur, mais je peux vous donner des chiffres qui vous permettront de voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais en gros, une heure de sport à l'hôpital, pour la mettre en place, c'est 65 euros. Donc, si concrètement, vous donnez à l'association Premier de Cordée 130 euros, vous participez à deux opérations sport à l'hôpital. Après, on peut faire tous les calculs qu'on veut. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que on est au début du sport à l'hôpital. On a une marge de progression qui est phénoménale, mais encore une fois, on y va sagement, en responsabilité. On veut pas avoir un développement, dingue. Voilà, sur un an, deux ans, trois ans, et derrière, commencer à dire aux hôpitaux, je suis désolée, mais on n'a plus les moyens, donc on va se retirer. Donc, on y va sagement, on sait où on va, on sait qu'il y a des besoins, on sait que c'est apprécié, on sait que ça fait partie de la vie à l'hôpital aujourd'hui, et le sport fait partie de la vie des enfants. Et là, je ne les segmente pas, c'est-à-dire qu'ils soient à l'hôpital ou à l'extérieur, c'est extrêmement important, et je ne parle pas de haut niveau, je ne parle pas de compétences, je parle juste de bien-être, d'épanouissement personnel, de santé. Et donc, nous, on a envie d'être un maillon dans cette chaîne.
Je fais une petite parenthèse, mais qui a son importance pour les auditeurs qui nous écoutent, qui souhaitent faire un don. On peut aller sur Hello Asso, dans les associations, donc rechercher Comité National Premier de Cordée. Et là, il y a tout un formulaire qui permet effectivement de pouvoir faire un don. Donc 65 euros, 130 euros, c'est globalement une heure ou deux heures de sport qu'on peut offrir à un enfant dans un hôpital.
Si vous êtes une entreprise et que vous avez par exemple 40 000 euros, et ben avec ces 40 000 euros, on peut acheter une tour au Pisport et proposer sur une année de la pratique sportive.
Le message est passé et je pense qu'il sera entendu. Donc, on espère y voir effectivement les bénéfices très, très sincèrement. On en a parlé tout à l'heure, donc vous avez eu un parcours chacun en tant que parrain marraine. Aujourd'hui, c'est combien de parrains marraines dans l'association et est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns?
Oui, alors Christian évidemment a parlé de notre je vais dire numéro 1, mais c'est horrible de dire ça parce qu'il n'y a aucun classement.
Ouais.
C'est horrible, donc je retire. on a Kylian Mbappé, mais on en a d'autres, et d'ailleurs qui sont dans l'assaut depuis plus longtemps, comme Thierry Omeyer, Vincent Clerc. On a un petit dernier aussi qui s'appelle Benjamin Ferré. On a pas
navigateur
mal...
Navigateur et aventurier.
On a des jolis vieux aussi, on a Arsène Wenger.
voilà. On est conscient qu'on manque un petit peu de femmes.
Ah ouais, j'ai relevé, il y avait Marion Rousse,
oui,
championne de
vrai.
Cyclisme.
Ouais. C'est notre ambassadrice, c'est notre marraine, effectivement.
Mais
au-delà de ça...
Et Stéphane Houdet également, champion de tennis en
Mais c'est
en
quand
e-sport.
Même, en vous écoutant, c'est quand même des noms extrêmement ronflants. Et moi, je rejoins Nathalie sur un truc, c'est que... On a un devoir moral vis-à-vis de l'assaut. Nathalie incarne l'intégrité absolue, mais on a aussi un devoir vis-à-vis de ces gens-là. C'est-à-dire que quand vous engagez l'image d'Arsène Wenger, de Vincent Clerc, de Kylian Mbappé ou des gens comme ça, ou de Thierry Omeyer, on n'a pas le droit de planquer des trucs sous le tapis, on n'a pas le droit de faire les choses à moitié. Quand on fait l'Olympia, on essaie que ça soit bien. Quand on va au Stade de France, on veut que ce soit bien. Et de toute manière, Nathalie veut toujours que tout soit parfait. Donc, c'est pas toujours parfait. Mais globalement, quand on se lance là-dedans, on essaie quand même de mettre tous les curseurs à fond pour que personne ne soit déçu. Parce que ce sont des gens de qualité qui sont extrêmement exigeants.
Et je tiens juste à rajouter qu'on a des parrains, mais on a aussi énormément de champions qui nous rejoignent donc, sur, par exemple, les journées évasion, Le Mans, Bordeaux, donc Saint-Denis, Seine-Saint-Denis et Nice. Ils viennent une journée, une fois de temps en temps, et je ne les oublie pas parce que c'est ça aussi la force de Premier de Cordée, c'est que ça fédère énormément de sportifs en activité ou retraités, tous les sports confondus. Handisport et évidemment valide.
Valide, très clair. Et en fait, côté enfant, cette fois-ci, toutes les pathologies que peuvent rencontrer un enfant quand il est hospitalisé permettent en fait la pratique du sport où il y a certaines pathologies qui
c'est
sont
ce
plus
qu'on
difficiles.
Appelle l'activité physique adaptée. Et donc, on est tenu évidemment par le secret médical. On n'est pas forcément d'ailleurs au courant de chaque pathologie. Parfois, on nous dit, vous allez avoir le service, orthopédie ou néphrologie, ou oncologie. Parfois, on a des signes extérieurs qui nous donnent quelques pistes, mais on ne sait pas vraiment de quoi il retourne. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de travailler avec les équipes médicales, les éducateurs des hôpitaux qui connaissent bien les enfants et qui vont aussi pouvoir soit poser des limites, soit être plutôt vigilants. Et chacun fait en fonction de ses capacités. C'est pour ça aussi que Premier Cordée a un vrai rôle de formateur auprès des bénévoles, des éducateurs sportifs, pour justement savoir appréhender ces enfants malades et ou en situation de handicap. Et c'est vrai qu'il y a des réactions qui sont... c'est bête parce qu'on est toujours avec sa façon de voir les choses et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de participer sur le terrain. Mais on va faire une opération escrime dans un service de pédopsychiatrie. Et là, il y a une petite fille, j'essaye de parler avec elle, je lui dis « Tiens, tu veux bien faire de l'escrime avec moi ?» je vais lui mettre son équipement, machin. Elle ne me répond pas. Alors moi, tout de suite, je me dis « Mince, elle s'ennuie, elle n'a pas du tout envie de faire du sport. » Et l'éducateur vient un petit peu à ma rescousse. Et puis, il me dit « Non, mais c'est une petite qu'on a récupérée il y a quelques mois. Elle n'a jamais prononcé un mot, elle ne parle pas. » Donc ça change un petit peu sa façon d'essayer de relever des indices. Et à partir de là, je me suis dit, je ne vais pas l'embêter à ce qu'elle me sorte un mot. Je vais juste essayer de voir, on va communiquer non-verbalement. Et donc, je voyais dans ses yeux plein de choses, des sourires. Je voyais qu'elle s'amusait. Et on se déporte un petit peu. On a un autre point de vue sur les gens qui nous entourent.
Elle avait quel âge ?
Elle avait 6 ans.
Incroyable.
C'est fou.
Ouais, mais des cas comme ça, on peut vous en donner.
J'imagine qu'il y a plein d'histoires, et de belles histoires d'ailleurs à raconter dans les rencontres entre les sportifs, les bénévoles et les enfants.
Ouais.
Et ça fait d'ailleurs un lien avec ma question suivante, c'est les bénéfices, les bienfaits globalement des interventions auprès des enfants. Qu'est-ce que vous observez ? J'imagine des sourires ?
Alors oui, des sourires. On s'occupe d'eux, c'est-à-dire que déjà, on vient à eux, on organise quelque chose de fun. C'est pas rébarbatif, c'est pas... Et encore une fois, il y a cette histoire de partage, de convivialité, c'est ludique. Ils bougent, ils s'amusent, ils se dépensent, ils prennent l'air. Parfois, quand il y a des terrains à l'extérieur, et ça aussi, c'est pas non plus anodin, c'est du bien-être, en fait, mental, physique, principalement sur tous les fronts.
On a un pédiatre qui s'occupe de premier de cordée, qui travaille avec Nathalie, qui s'appelle Mathieu Pellan, qui nous a clairement expliqué que dans les hôpitaux, passé 17h, il ne se passait absolument plus rien pour ceux qui étaient en hospitalisation longue. Et lui, il fait une étude là-dessus. Il est en train de faire un mémoire là-dessus et dit on n'imagine pas les bienfaits que cela procure, tant sur le plan mental que même sur le plan physique, de faire bouger les gamins qui sont parfois touchés par des maladies, mais qui ont besoin de faire des choses. Donc, pour moi, on touche un truc pour l'instant qui n'est pas quantifiable. On n'a pas des chiffres, on n'a pas de données, mais je lui fais totale confiance parce que lui, c'est vraiment un homme de terrain, c'est un docteur de terrain. Il nous dit c'est une évidence. Donc, je pense que bientôt, on pourra communiquer là-dessus.
Ouais, on le sait un peu plus sur
la pratique.
Sur le service, par exemple, orthopédique ou à Saint-Maurice, les enfants reçoivent leur première prothèse. Le fait de, assez rapidement, essayer de leur faire faire une activité physique adaptée, ils apprivoisent mieux leur nouvel engin. Et du coup, même, ils ont un objectif un peu plus à long terme. C'est pas juste, tiens, on va me poser une prothèse, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette prothèse? Peut-être que tu peux marcher, peut-être que tu peux sauter, peut-être que tu peux faire des pas de côté. Enfin, il y a toujours quelque chose. Et en fait, en mettant l'objectif un petit... attention, on n'est pas ultra contraint, mais en ayant un objectif plus ludique et plus loin, eh ben, on gagne du temps, en fait. On gagne du temps.
Un grand bravo en tout cas, parce que c'est vrai que c'est des témoignages qu'on aime accueillir et recevoir. J'aurais aussi parlé d'intervention que fait l'association, je crois, dans le monde de l'entreprise, à travers des formations, à travers peut-être des séminaires. Comment les entreprises accueillent-elles en fait aujourd'hui c'est cette proposition, et notamment à travers, d'après ce que j'ai compris, donc des interventions au travers du handisport.
En fait, l'association a développé plusieurs modules de sensibilisation handicap parce que, un, ça avait du sens dans notre mission, vous l'avez compris, il y a beaucoup d'enfants qui sont en situation de handicap à l'hôpital et à qui on délivre des sessions sportives. Mais au-delà de ça, c'est aussi un moyen vertueux de financer notre mission d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on va vendre une opération de handisport, on a le handicube aussi, donc ça on va proposer du rugby fauteuil, du cécifoot, mais on peut aussi faire une mise en pratique où on va montrer à un collaborateur ce que ça fait d'avoir une vue amoindrie ou de ne pas pouvoir utiliser son bras droit. Et donc, comme ça, on sensibilise les gens en handicap et on se rend compte que c'est très compliqué. Et les bénéfices, déjà, franchement, c'est pas très cher. Allez voir sur les...
C'est pas le budget.
Faudrait que je vous décline tous les modules, mais c'est pas très cher.
Ok.
Pardon, mais non, vraiment.
Sur le site de Premier de Cordée, on a
pour des formations, des petites formations, c'est vraiment pas trop cher. Moi, d'ailleurs, non, mais même, en fait, le fond de ma pensée, on se dit tout, c'est que je trouve que c'est pas assez cher. Honnêtement, parce que c'est pas assez cher.
Dans ce podcast, Nathalie Péchala, 2 points.
Ça n'est pas assez cher parce que c'est pas pour nous remplir les poches, c'est pour tout ça en fait se transforme en session de sport à l'hôpital. Donc encore une fois, c'est un cercle vertueux. Les entreprises, quand elles font appel à ces formations, déjà elles ont du contenu, elles ont un truc clé en main inventé par l'association Premier de Cordée, et en plus de ça, ces bénéfices sont reversés directement auprès de ces enfants. Donc, je peux que vous inciter à participer. Petit aparté, on fait aussi pour les scolaires, les universitaires, de l'handicross solidaire. Et là, c'est sous forme de carnet de dons. Donc voilà, on va organiser un handicross solidaire au sein de votre école primaire. Et puis comme pour les tombolas ou les kermesses de l'école, l'enfant va aller avec son petit carnet de dons, vendre les billets aux parents et aux voisins. Et tout ça, encore une fois, dans l'optique de proposer encore plus de sessions sportives à l'hôpital.
Et se balade, hein.
C'est incroyable, là, c'est incroyable. Quelle énergie. Si on revient également sur les événements organisés par Premier de Cordée, on en a parlé un petit peu, je crois qu'il y a une journée dédiée au sport.
Ouais, la journée évasion, donc multisite.
Voilà, journée évasion.
Seine-Saint-Denis, le 24 avril, et puis au mois de mai, on va à Bordeaux, à Nice et au Mans.
Magnifique.
Comme un groupe de rock, on est en tournée.
C'est ça, c'est une vraie tournée. Il y a la semaine du sport à l'hôpital.
également.
Ah ouais, et alors là, ça va être énorme en 2024, puisque ça rentre dans la grande cause nationale. Donc avec le soutien du ministère, de l'Agence nationale du sport et de tous les militants engagés, on va non pas aller dans 42 hôpitaux en France, comme c'était le cas en 2023, mais dans plus de 100, dont 2 en dom-tom. L'idée, c'est que du lundi au vendredi, on fait une séance sportive chaque jour et on fait découvrir une nouvelle discipline chaque jour.
En plus de ça, pour la petite anecdote, ce sera la 20e édition pour l'année 2024,
ouais. Mm-hmm.
Si je ne me trompe pas. Magnifique. D'autres manifestations, je crois, il y a les tournées du sport à l'hôpital,
oui.
En partenariat avec le fonds d'action de l'équipe.
Oui, c'est le plus vieil événement de l'association. Et là encore, l'idée, c'est de nous ouvrir la porte donc à des nouvelles structures hospitalières. On commence par une tournée pour leur montrer ce qu'on peut faire. Et après, l'idée, encore une fois, c'est d'imposer. On est plus cool que ça. Mais de proposer, de pouvoir offrir une pratique régulière.
Et enfin, donc, le concert à l'Olympia, organisé par Rockaway.
Ouais.
Donc, c'est une fois par an ?
Oui.
Combien de participants au concert ?
Ben alors, sur scène, on est la compagnie créole, on est une dizaine sur scène. Mais dans le public, on est de 2000, je crois, autour de 2000. L'Olympia, c'est 2000 personnes, donc on essaie de remplir l'Olympia avec les amis, les gens qu'on aime bien et les bénéficiaires.
Et nos mécènes.
Et nos mécènes, voilà.
Ouais, c'est un très bel événement, l'occasion d'y assister. Bon. Et j'avoue, c'est assez incroyable. Quelle énergie aussi donnée, transmise, avec les invités aussi qui viennent, les guest stars.
Ouais.
Parce que dernier événement, ou dernier concert.
On peut en parler,
ouais,
je sais pas si c'est l'objet, mais on peut en parler vite fait. Ouais, l'année dernière, lors du dernier concert, on a eu comme présentateur un farfelu que j'aime beaucoup, qui a une vraie dinguerie, qui s'appelle Eric Antoine. Qui sévit sur M6, qui est un magicien totalement fou, qui mesure 2m07. Et on avait comme invité Anne Silla, qui a gagné The Voice, Gaëtan Roussel, Jean-Louis Aubert, Patrick Fiori, et voilà, et le groupe Rockaway, dont Luciano Cado, qui a fait The Voice, est le chanteur principal, et tout ce petit monde a essayé de donner du bonheur aux gens. Après des mois de répétition, parce que c'est pas un concert entre guillemets Club Med où on dit youpla boum, on va chanter la chansonnette. Il y a du boulot derrière. Et
ça se voit.
Et la musique, c'est comme le sport. Quel que soit votre niveau, il faut jouer. Et il faut jouer ensemble. Voilà. Et pour qu'un groupe tourne, que vous soyez les Rolling Stones ou Rockaway, ça repose sur les mêmes trucs. C'est ce qui se passe entre les musiciens et les gens avec qui vous partagez la scène. C'est fou comme dans un groupe de rock ou dans un groupe qui fait de la musique, il y a plein de similitudes avec le sport de haut niveau. Et moi, ça me plaît beaucoup. Après, il y a une immense différence. Ça, c'est la phrase d'Arsène, juste avant de rentrer sur scène à l'Olympia cette année, que j'ai trouvé totalement magique. C'est que quand vous faites du sport à haut niveau, comme l'a fait Nathalie, etc., quand vous rentrez pour livrer un programme ou pour jouer contre quelqu'un quand vous êtes dans un sport collectif, vous allez vous battre contre quelqu'un. Vous devez lutter pour être la meilleure que la Russe.
C'est la compétition.
C'est la compète. Arsène, il a eu un mot magique. Quand vous faites de la musique, c'est jouer. Mais c'est jouer au sens littéral du terme. Soyez des enfants, éclatez-vous. Parce que les gens qui sont en face, ils vont pas vous taper sur la gueule. Ils sont juste là pour partager du bonheur avec vous. Mmh. Donc je trouve quand même que la musique, et j'ai un énorme respect pour les musiciens, etc., etc., mais la musique, c'est quand même beaucoup plus simple que le sport de haut niveau où quand vous rentrez sur un terrain, bah, en face, il y a des loups, quoi. Et les loups, ils veulent vous manger. Nous, quand on est à l'Olympia, personne ne veut nous manger.
On chante et on danse avec.
C'est ça, et puis il y a un public acquis à la cause, ouais, en même temps, ouais. Donc une ambiance incroyable. On va passer à une autre partie de cette interview, cette fois-ci la partie un petit peu plus prospective. À tous les deux, comment vous voyez l'avenir pour ces enfants hospitalisés, notamment en termes d'inclusion par le sport, des enfants malades et ou en situation de handicap ?
Bah, l'avenir, si on poursuit l'impulsion donnée là depuis j'irai l'an dernier, je parle pas de problème cordé, hein, je parle de, au niveau sociétal avec ce véritable apport du sport, ça serait que tous les enfants aient au minimum une session de sport hebdomadaire. Mais moi, j'ai presque envie de vous dire, mais ça devrait être comme à l'école, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont scolarisés à l'intérieur même des structures, et d'avoir 30 minutes par jour d'activité physique, c'est le rêve. Mais alors là, je peux pas vous donner de date effective, mais on est sur le bon chemin. On a besoin du monde du sport, on a besoin du monde de la santé, on a besoin du monde institutionnel, comme on a besoin du monde privé. En fait, on a besoin de tous pour que ça puisse fonctionner. Il y a beaucoup d'enfants qui sont à l'hôpital et pour qui l'avenir, honnêtement, n'est pas tout rose. Mais s'ils trouvent un petit rayon de soleil de temps en temps avec cette évasion, bah, on aura fait notre part. Ouais.
Je pense que tu as tout dit. Moi, j'y retiens un chiffre, Anthony. Tu nous as donné un chiffre que je ne connaissais pas tout à l'heure. Tu as parlé de plus d'un million de gamins hospitalisés.
1,2 million, ouais.
Je trouve ça dingue. Mais alors, ils sont hospitalisés quoi? Un jour, deux jours? On ne sait pas.
On ne sait pas. C'est le chiffre qui est partagé.
Parce que moi, j'avais retenu, lors d'un dernier Olympia avec Mathieu Pelland, j'avais retenu qu'il y avait 80 000 enfants en France. Je trouvais ça déjà énorme. 80 000 enfants qui étaient hospitalisés dans des hospitalisations plutôt longues. Là, toi, tu parles d'un million de gamins concernés.
Ouais, hors naissance.
Moi, ça me donne des ailes. Hein. C'est-à-dire que je trouve que notre combat, tant qu'on aura de l'énergie, ben, moi, c'est le combat d'une vie, mais je le trouve magnifique. C'est-à-dire que c'est vraiment génial de pouvoir se dire qu'on aide des gens. Quoi. Et je vous renverrai à une phrase de Jean-Jacques Goldman qu'il a citée dans un reportage qui est passé sur TF1 sur la nécessité d'aider les restos. Et quand je fais ça... J'attends pas un merci des parents ou des enfants, etc. Moi, je pense que c'est une chance pour nous, quoi. Je pense que les moments qu'on vit quand on est dans un hôpital, quand on est sur scène avec Nathalie, qu'on présente l'asso, etc. Moi, j'ai juste envie de dire merci. Hein. J'attends pas des merci pour tout ce que je fais. C'est juste une chance énorme de vivre ça. Et ce qui est cool, c'est quand vous avez des gens comme Nathalie ou comme Thierry Meyer ou qui s'en rendent compte. C'est-à-dire que ce qu'on vit là, c'est des moments super forts. Mais il faut s'en rendre compte. Et c'est très drôle. Il y a ceux qui s'en rendent compte et ceux qui attendent des fleurs et des remerciements en permanence. Mmh. Parce que c'est pas comme ça qu'il faut être, quoi.
Mais ouais,
c'est...
Et parce qu'il y en a aucun qui a cet état d'esprit-là dans notre asso.
Ouais.
C'est ça qui fait la force de Premier de Cordée.
On sent de belles valeurs hein, dans l'association.
C'est pour ça qu'on est très content que tu la défendes et on compte sur toi pour que tu nous trouves plein de partenaires. Il y a de la place à l'Olympia, il y a de la place au Stade de France, il y a de la place partout.
Avec grand plaisir. En tout cas, on va tout faire pour. Et puis, dans cette émission, on aime bien parler aussi des enjeux climatiques. Alors, on sort un petit peu du cadre, mais il y a une question qui revient souvent, en tout cas que je pose systématiquement. C'est demain, présidente et président de la République, quelle sera votre première mesure en faveur du climat et de l'environnement?
J'allais dire démissionner avant d'entendre le... Là, tout de suite, j'ai des sueurs.
Qu'est-ce que je peux te dire d'intelligent?
Alors, en plus, j'adore ça. Tout ce qui est durabilité.
Ah ouais.
Mais déjà, zéro plastique. Ça me rend dingue, tout ce plastique. En fait, tout ce qui a usage unique. En fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours quelles sont les bonnes alternatives. Je suis aussi présidente déléguée du Club France. Donc, énorme lieu de promotion de l'activité physique pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 45 000 m² à l'extérieur, 12 000 m² à l'intérieur. Donc, on est à la Villette. Comment on fait pour proposer des boissons à nos visiteurs? On attend 700 000 personnes. Et bien, on se rend compte qu'on a l'eau du robinet. Donc, ça, tout est éco-responsable. Mais on doit aussi avoir des bouteilles. La mairie de Paris ne veut pas de bouteilles en plastique. Mais Coca-Cola... Et le partenaire, le sponsor officiel Paris 2024.
Ah, le casse-tête.
Et c'est hyper compliqué. Elle est où, la solution? Donc, je dis, est-ce qu'on n'a pas des tétrapacks, machin? Mais non, parce que c'est beaucoup plus compliqué à recycler que le plastique. Même si le plastique, on va pouvoir le recycler une fois, deux fois, et basta. Donc, en fait, moi, ce que je ferais, mais je m'entourerai d'experts sur l'innovation, sur trouver-nous des alternatives qui ne sont pas... c'est comme pour les voitures électriques. On sait que c'est une transition, que ce n'est pas la solution idéale. Mais il faut absolument qu'on bosse sur toutes ces nouvelles possibilités.
Ces innovations, bien sûr.
Ces innovations, pour qu'au moins, on se dise, OK, on arrête ça, on a compris que c'était nocif, mais on a quelque chose d'autre à vous proposer. Et là, on est toujours en train de peser le pour, le contre, sans savoir véritablement si c'est le bon choix. Ça, c'est bien. Je préfère positiver. Ça veut dire que déjà, on a cette conscience-là et qu'on essaye d'avancer. Mais alors j'injecte un maximum de blé sur la recherche et l'innovation.
Alors moi, je suis dans une démarche. Alors moi, je suis beaucoup moins militant que Nathalie, qui est une militante de la première heure. En revanche, moi, je suis en train de préparer un documentaire avec Bertrand Piccard.
2027, prochaines élections présidentielles.
Je suis moins militant que Nathalie là-dessus. Mais en revanche, c'est des sujets qui me passionnent parce que je suis en train de préparer un documentaire sur Bertrand Piccard, qui a fait le tour du monde avec un avion solaire, qui a fait le tour du monde avec une montgolfière à gaz il y a 20 ans, et qui prépare un tour du monde avec un avion à hydrogène. Et je me suis penché sur le dossier. C'est un dossier absolument passionnant parce qu'en fait, on se rend compte qu'à Toulouse, Airbus est en train de prévoir un avion pour 2035 de 100 places qui sera entièrement à pile combustible hydrogène. Et donc, il y a des millions, voire des milliards qui sont investis en ce moment là-dedans. Et c'est une course effrénée entre les Chinois,
Boeing qui a fait le choix de l'électrique et Airbus qui a fait le choix de l'hydrogène. Et ce sujet-là est dantesque. Donc moi, c'est un sujet qui me touche terriblement. Après, j'ai ni la prétention d'analyser, ni la prétention de vous donner ce que je fais tous les matins.
Superbe transition sur cette interview qui touche quasiment à sa fin. Mais une dernière question quand même. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir?
Alors ça, c'est une question piège avec notre mission. Parce que quand on se dit toucher plus d'enfants les hôpitaux pour la pratique sportive, ça veut dire qu'on a toujours autant d'enfants les hôpitaux, voire qu'on en a plus. Donc on va se souhaiter de pouvoir dispenser 10 fois plus de sessions sportives dans les années à venir, mais pas plus d'enfants.
Évidemment, la dialectique est importante. Moi, je rejoins Nathalie à 200%. On a juste envie de continuer, d'aller le plus loin possible et d'aider le maximum d'enfants. C'est très simple. Hein. Ça repose sur des valeurs et sur une énergie qui est très simple. Il faut juste se retrousser les manches, trouver des sous et y aller.
Magnifique. Un grand merci à tous les deux pour cette interview riche en émotions, en générosité aussi. C'est partage également à travers votre vécu dans ces hôpitaux, au contact des enfants, à qui je pense vous avez donné beaucoup, beaucoup de sourires. Donc, une interview à réécouter naturellement sur l'ensemble des plateformes de streaming musical. Je retiendrai effectivement ces moments forts, encore une fois, que vous offrez à ces enfants. Et puis, une mobilisation naturellement à aller chercher. Et cette fois-ci avec une responsabilisation de toutes et tous. Donc que l'on soit particulier ou qu'on soit une entreprise, on a la possibilité d'accompagner l'association Premier de Cordée. Je rappelle le lien donc, pour faire un don, c'est helloasso.com, association Comité National Premier de Cordée. On a également toutes les informations sur le site internet de Premier de Cordée. Et puis, on a bien compris également le message. Donc, pour une entreprise qui souhaite rejoindre Premier de Cordée en tant que mécène, c'est possible. Mmh. Sur des montants, après, j'imagine qu'ils sont vus entre vous. Mais je vais juste redonner quand même le budget. C'est-à-dire que la tour Opisport, c'est 10 000 euros de fabrication. Et un éducateur pour à temps plein pour animer, s'occuper des enfants au travers de cet outil magnifique, c'est 30 000 euros par an. Voilà, donc pour un budget de 40 000 euros en action de mécénat, c'est ça qui est défiscalisé.
Oui, parce qu'on est reconnu d'intérêt général.
Exactement, on peut tout à fait participer au développement de Premier de Cordée.
Bah, c'est à nous de te remercier parce que tu as fait un vrai travail d'investigation, de recherche, tu as fait un travail extrêmement précis. Donc c'est agréable d'être reçu par des gens qui bossent, donc merci à toi.
C'est un compliment qui me touche, merci beaucoup Christian, merci beaucoup Nathalie.
Merci.
Donc voilà, je rappelle Nathalie Péchala, présidente de l'association Premier de Cordée, Christian Jean-Pierre, président d'honneur. C'était une joie de vous accueillir dans cette émission.
Merci à toi.
Merci, à bientôt.
Merci
à très bientôt.
Face à Face Décideur, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour ne rater aucune émission, abonnez-vous au podcast Les Afters de la Transformation sur vos plateformes d'écoute habituelles. Et si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à le recommander autour de vous. Face à Face Décideur, une production Adéquancy.